Après les 40 ans de règne d'Élisabeth Ière, l'Église d'Angleterre a un clergé installé. Deux partis pourtant s'affrontent, ceux dans la ligne de la reine défunte en faveur de la hiérarchie épiscopalienne, les autres, les puritains, qui souhaitent encore une fois épurer les rites, abolir la référence que représente le Book of Common Prayers. C'est dans ce contexte de bras de fer religieux qu'arrive la famille des Stuart à la tête du pays. Jacques, roi d'Écosse, fils de la très catholique Marie Stuart et cousin d'Élisabeth Ière, succède à la reine décédée sans enfant. Bernard Cotteret est spécialiste de la réforme en Angleterre à l'université de Saint-Quentin en Yvelines.
Jacques Ier, lorsqu'il arrive au pouvoir, il y a une espèce de soulagement dans le pays parce que on n'aimait pas les règnes féminins. Alors, la grande crainte de Jacques Ier, c'est le désordre politique. Pour lui, évidemment, ce sont les troubles qu'il a pu connaître en Écosse, c'est-à-dire, entre guillemets, protestant, mais en même temps, il a peur du catholicisme romain. Il pense que le catholicisme romain ne lui permettra pas de conserver son pouvoir politique. Donc, il essaie de trouver une position intermédiaire entre le protestantisme et le catholicisme romain.
Finalement, Jacques ne ménage personne. Il tente de rogner sur les droits du Parlement, notamment pour lever de nouveaux impôts, s'appuyant pour le faire sur l'anglicanisme, rappelant du même coup que son pouvoir est de droit divin. Quant à la religion, justement, il veut imposer sa suprématie à tous, aux puritains comme aux catholiques. Le 5 novembre 1605, les catholiques tentent un coup d'État. C'est la conspiration des poudres.
Remember, remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot.
Un certain Guy Fawkes est découvert dans les caves du Parlement, prêt à tout faire exploser. La conspiration des poudres, encore célébrée aujourd'hui, provoqua à l'époque de nombreuses persécutions. Celles-ci ne s'atténuèrent qu'avec l'arrivée au pouvoir du fils de Jacques, Charles Ier, qui avait en effet épousé la fille de Marie de Médicis et d'Henri IV, la très catholique Henriette de France. Elle le pousse à être plus tolérant, mais pas moins absolutiste. Au contraire, sous son influence, Charles Ier court-circuite le Parlement, décide de régner en monarque absolu. Il provoque ainsi une guerre civile entre ses partisans, les cavaliers, et ceux du Parlement, les têtes rondes qui l'emporteront finalement. Le roi sera décapité, le Commonwealth instauré par des protestants puritains, dont le célèbre Olivier Cromwell. Ironie de l'histoire, pour Bernard Cotteret, c'est en pleine crise politique que l'anglicanisme prend conscience de lui-même.
C'est dans les épreuves de la guerre civile, qui dure, vous le savez, à partir de 1642, pour aller jusqu'en 1660, c'est là, je pense, que l'anglicanisme prend conscience véritablement de lui-même. Alors, il y a deux choses. Il y a eu les épreuves à l'intérieur du pays, c'est-à-dire les partisans de Charles Ier, qui se sont retrouvés aussi rejetés par les autres, qualifiés de puritains. Mais il y a une deuxième épreuve aussi, qui a été l'épreuve de l'exil, c'est-à-dire que ces fidèles de l'Église d'Angleterre qui sont venus sur le continent, qui sont venus en particulier en France, eh bien, se sont aperçus au contact des protestants français qui n'étaient pas protestants comme les autres. Et donc, ils ne se sentent pas catholiques, évidemment, mais ils ne se sentent pas non plus protestants comme les réformés du continent. Et donc, l'anglicanisme apparaît en réalité au milieu des épreuves. Tout simplement parce que c'est dans l'épreuve que l'on s'assume le mieux.
C'est aussi d'ailleurs lors de la Restauration, au retour en Angleterre du fils de Charles Ier, Charles II, que les bases structurelles de l'anglicanisme sont posées.
Le terme anglican, on le trouve après la Restauration de 1660. C'est là véritablement qu'on réinstaure une église en Angleterre qui est une église nationale et qui a cette principale caractéristique au sein du protestantisme d'être une église mais qui admet le magistère des évêques. Donc c'est une église de type épiscopal. Pourquoi ce rôle des évêques? Parce qu'on a l'impression que les évêques sont des facteurs d'ordre et de stabilité et que sans évêques, eh bien, les fidèles risquent de prendre véritablement le pouvoir assez rapidement.
En soi, le règne de Charles II tranche avec l'espoir que l'Angleterre avait mis en lui. Sans profiter du mauvais exemple de son père, il casse lui aussi plusieurs parlements. Avide de plaisir, il cherche partout de l'argent et a même promis, sans réelle intention de le faire, de se convertir au catholicisme à Louis XIV. Il meurt lui aussi sans enfant et laisse la place à un vrai militant catholique, Jacques II.
Il a le sentiment qu'il va pouvoir ramener son royaume dans le catholicisme, donc qui va être un instrument de la Providence. Donc ça, c'est l'espèce de pari que fait Jacques II à partir de son arrivée au pouvoir en 1685. Et donc il a la conviction qu'il va pouvoir faire un peu la même chose que son grand-père Henri IV, qui avait apporté la paix au royaume par l'édit de Nantes en 1598. Eh bien, Jacques II pense qu'il va pouvoir réconcilier les catholiques et les protestants de son royaume et à terme permettre une réinstauration du catholicisme. Évidemment, n'est pas Henri IV qui veut. Et le pauvre Jacques II échoue misérablement en se demandant pourquoi Dieu n'a pas daigné faire de lui l'instrument de cette restauration du catholicisme. Et c'est ce qui l'a troublé jusqu'à ces derniers temps.
Mais il ne s'agit pas que d'un échec personnel. Le catholicisme de Jacques II, à sa proximité avec le roi de France, fait trembler la noblesse anglaise. Bernard Cotteret nous explique pourquoi.
L'image négative du catholicisme était liée directement à l'exemple de Louis XIV. Et on avait le sentiment que Jacques II, s'il était arrivé au pouvoir, allait à terme persécuter les protestants comme Louis XIV avait pu persécuter les protestants, ce qui ne tient pas sur le plan arithmétique. Les catholiques en Angleterre, à ce moment-là, n'étaient que 1% de la population, c'est-à-dire 50 000 à peu près, sur une population de 5 millions d'habitants. Donc on ne voit pas tellement comment 1% de la population peut persécuter les 99% restants, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quand même, sur le plan fantasmatique, une conviction qui est largement partagée, que le catholicisme conduit, dans le fond, non seulement conduit à Rome, mais conduit aussi à Versailles, si j'ose dire, et que Jacques II allait importer les manières françaises de gouverner. Et donc, il y a tout un sentiment national qui s'est retrouvé derrière les mots d'ordre protestants.
Et pour se débarrasser de leur roi, les lords anglicans appellent à la rescousse le champion du protestantisme, Guillaume II d'Orange. C'est la glorieuse révolution de 1688, avec le règne de Guillaume et de Marie. Les lois pénales imposent une série de discriminations contre les catholiques. Ils ne peuvent plus servir dans l'armée, enseigner, voter, convertir un protestant, garder des orphelins. Autre changement de taille, The Bill of Rights, et deux ans plus tard, l'Act of Settlements. Ces textes fondateurs limitent définitivement le pouvoir du roi au profit de celui du Parlement anglais, mais pas seulement, ils interdisent les catholiques d'accéder au trône. Bernard Cotteret.
Il y a effectivement une identification entre le catholicisme et le parti, entre guillemets, de l'étranger. Et donc, on va décréter que les rois ne sauraient être que protestants pour ne pas dépendre du Saint-Siège. Donc, c'est ce qui est mis en place par le Bill of Rights de 1689 et aussi par cet Act of Settlement, ce règlement qui intervient, lui, en 1702 et qui est toujours en usage à l'heure actuelle. Si Charles avait la velléité de se convertir au catholicisme, il risquerait d'y perdre son royaume.
Une loi qui demeure encore aujourd'hui et qui n'est pas prête d'être modifiée, alors que le gouvernement travailliste de Gordon Brown avait lancé des pourparlers pour réformer l'Act of Settlements. Le tout nouveau gouvernement de David Cameron a estimé, lui, qu'il n'avait aucun intérêt à le faire, provoquant l'énervement de certains évêques catholiques. Mi-juillet, le président de la conférence épiscopale écossaise déclarait « Il est assez ironique que la coalition qui se veut une championne de l'égalité des droits commence son mandat par un message clair aux catholiques en faisant d'eux l'exception dans ce domaine. Aujourd'hui, de fait, le prince héritier britannique peut sans problème épouser une musulmane, une bouddhiste et même la membre d'une secte sataniste. Aussi, nombre de personnes en Grande-Bretagne estiment et tout haut obsolète aujourd'hui cette exception catholique qui date du début du XVIIIe siècle. »